De retour aux amateurs de sport, les séries se poursuivent. Dans quelques instants, mise en jeu initiale pour l'affrontement entre les Islanders et les Hurricanes. Plus tard, 21h30, les Blues de Saint-Louis contre les Stars de Dallas. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas eu des nouvelles de notre ami Daniel Brière. Alors, allons le retrouver immédiatement. Salut, Daniel!
Salut, Mario!
Comment ça va?
Très, très bien, merci.
Regardes-tu du hockey en masse ces jours-ci?
Ben écoute, c'est les séries éliminatoires. Fait que oui, je passe beaucoup de temps devant mon téléviseur. C'est le meilleur temps de l'année.
Qui vois-tu gagner la Coupe avec les 8 équipes qui restent, puis toutes les surprises auxquelles on assiste en première ronde?
Oh wow, écoute, c'est une bonne question. Pour le moment, je te dirais que je vois en finale Saint-Louis-Columbus. Columbus m'impressionne de plus en plus, oui. Première ronde, ils ont été capables de fermer les livres contre les joueurs offensifs du Lightning de Tampa Bay. On voit la même chose, le gros trio des Bruins qui n'est pas capable de se trouver en deuxième ronde. Du grand Bobrovsky, encore une fois, qui vient les aider. Les défenseurs de Columbus m'impressionnent à un très haut niveau. Donc, je pourrais voir là, Columbus sortir dans l'Est, la façon dont les choses se déroulent. Dans l'Ouest, il y a deux équipes qui m'épatent vraiment. J'ai mentionné les Blues de Saint-Louis, mais il y a aussi les Sharks. C'est deux équipes que, les dernières années, tu sais, c'est des équipes que on voit, on s'attend, on se dit, est-ce qu'ils vont passer à la prochaine étape? Parce que on va voir quelque chose, est-ce qu'ils vont gagner un jour, ces équipes-là? Mais ils ont toujours eu beaucoup de malheur en séries éliminatoires. Un peu comme Washington l'an dernier, si tu te rappelles, les Capitals avaient eu plusieurs séries qui leur avaient fait mal, qui avaient perdu, où on s'attendait de les voir gagner la Coupe Stanley. Je pourrais voir une de ces deux équipes-là là, se rendre en finale de la Coupe Stanley puis gagner la Coupe Stanley cette année après plusieurs années de malchance.
Si ça se produisait, là, je serais presque content parce que on dirait que, en tout cas, moi, je pense que beaucoup d'amateurs qui regardent ça comme ça également, peut-être vu du Canada aux États-Unis, je ne sais pas si c'est la même chose, mais de voir des équipes qui n'ont pas goûté à ça depuis longtemps ou qui n'y ont jamais goûté. Les Blues de Saint-Louis n'ont jamais remporté la Coupe Stanley. Dans les premières années d'expansion, la formule leur permettait de participer à la finale où ils perdaient, mais ça serait le fun de voir ces deux marchés-là participer à une finale. Je ne sais pas si Gary Bettman voit les choses du même œil, mais en tout cas, nous autres, comme amateurs de hockey, là.
Ouais, ben je pense que Gary Bettman cherche la parité dans la ligue, donc il doit être très très content de ce côté-là. Tu sais, au Québec, les partisans comprennent que le hockey de séries éliminatoires, c'est pas la même chose. Puis gagner une Coupe Stanley, c'est extrêmement extrêmement difficile. Puis c'est pour ça que c'est le fun de voir des équipes puis des joueurs qui ont passé à travers le tordeur, qui en ont souffert pendant des années à pas être capable. Tu sais, je pense à Alexander Ovechkin l'an dernier. Puis même si j'ai eu mes rencontres avec lui, qui n'ont pas toujours été très, très saines, j'ai aimé ce que j'ai vu de lui. Puis il a mérité de gagner la Coupe Stanley après plusieurs années où il a dû apprendre comment jouer en séries éliminatoires. Puis on voit un peu, tu sais, quand je pense à un Joe Thornton à San Jose, ça fait des années qu'il est là, qui essaie de trouver une façon de retourner en finale de la Coupe Stanley, qui a passé proche à plusieurs reprises, de pouvoir mettre sa main dessus, un Joe Pavelski, un Brett Burns. Donc, il y a plusieurs joueurs là, dans cette équipe-là qui le méritent finalement, puis qui ont probablement appris de leurs erreurs par le passé, puis ils réalisent qu'il ne leur reste pas beaucoup de chance. Donc, ils sont prêts à tout laisser sur la patinoire à chaque présence.
J'aime ta prédiction à propos de Saint-Louis, parce qu'on dirait que c'est une équipe que plus personne voyait sur le radar. Tu sais, ils ont essayé à quelques reprises. Hitchcock est retourné, le dauphin d'Hitchcock a travaillé à ses côtés. Yo a été congédié. L'équipe a touché la cave du classement cette année avant les fêtes, là, quelque part au mois de décembre. Craig Berube est arrivé là. Bennington, il y a eu un alignement des as. Je pense que les joueurs se sont responsabilisés, mais honnêtement, il n'y a pas personne qui voyait là pendant tout. Même, tu t'en rappelles, Daniel, on parlait de transactions possibles avec quel gars les Blues devraient changer pour se rebâtir.
Exactement. Écoute, ils ont touché le fond du baril là, cette année, en première moitié de saison. C'était le désastre à Saint-Louis. Plusieurs noms étaient sur, disons, le marché des échanges. On entendait plusieurs rumeurs au sujet de Tarasenko, notamment. Pareco, il y avait aussi Pietrangelo. Donc, c'était assez impressionnant, des gros noms du côté des Blues. Mais quand je les regarde jouer, là, c'est une équipe, moi, ce qui m'a impressionné en première ronde, contre les Jets de Winnipeg, je pense qu'au premier match à Winnipeg, qui est une place extrêmement difficile à jouer, ils m'ont impressionné parce qu'ils ont gagné ce match-là, je crois, 2-1. Perdaient 1-0 après deux périodes. C'est un match qui allait un peu nulle part. Ils ont endormi un peu les Jets de Winnipeg. Puis en début de troisième, boum, boum, deux buts rapides. Ils mènent 2-1. Puis ils ont été capables de fermer les livres. Ça, là, pour moi, c'est une équipe qui a démontré beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience. puis on voit un peu la même chose là en deuxième ronde face aux Stars l'autre soir. C'est une équipe qui a pas paniqué quand ils ont donné. Il y avait une avance de, je pense qu'à trois reprises, ils ont donné une avance aux Stars de Dallas, mais ils trouvaient une façon de revenir puis de marquer le gros but. Donc moi, c'est ça. Encore une fois, c'est une équipe qui a démontré beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, d'expérience. Donc il y a quelque chose là qui m'impressionne avec cette équipe-là. Ils trouvent des façons de gagner. Puis écoute, j'ai eu Craig Berube comme assistant entraîneur avec les Flyers à toutes mes années à Philadelphie, puis je l'ai adoré comme personne puis comme entraîneur. Donc je suis très très heureux là pour lui d'avoir finalement sa chance comme entraîneur, puis peut-être de gagner une Coupe Stanley cette année.
En tout cas, les résultats qu'il obtient depuis qu'il est là, il fait tout un travail. David Perron nous en parlait la semaine dernière, puis lui aussi semble beaucoup l'apprécier. Lui qui pourtant a été écarté de l'alignement en décembre. Je reviens au match sur la route. Tu en as disputé autant qu'à domicile dans ta carrière, en série comme en saison, Daniel. c'est quoi qui est si différent que ça, à part évidemment l'ambiance dans le building? Puis est-ce que c'est intimidant, l'ambiance dans le building? Parce qu'on a vu San Jose gagner un gros match à Vegas. On a vu Saint-Louis, comme tu viens de le mentionné, on a vu Boston gagner à Toronto, on a vu Columbus gagner à Tampa Bay et à Boston. C'est quoi la recette? Qu'est-ce que ça te rappelle, toi, quand tu penses à gagner un match en série, Daniel, de ton expérience de joueur?
Ben, ce que je me souviens, c'est qu'en série, quand tu te présentes en série, surtout comme tu as mentionné, il y a des arénas où c'est beaucoup plus difficile que d'autres. Tu te présentes à Montréal, tu te présentes à Winnipeg, San Jose, c'est une place très, très difficile à jouer en série, oui. Éliminatoire aussi. Quand tu te présentes comme équipe adverse, moi, je me disais toujours, les 5 à 7 premières minutes du match, tu dois essayer de juste survivre. Probablement que tu vas pas sortir puis marquer deux buts rapides parce que l'autre équipe va tellement être motivée à cause de l'ambiance dans l'aréna. Donc, tu essaies de survivre. Faut trouver une façon de ralentir le jeu, de sortir les fans un peu de cette ambiance-là, puis donner une chance à ton équipe là de se retrouver un peu à travers, parce que normalement, là, c'est très, très, très bruyant. Puis si tu es capable de passer à travers là, ces 5-7 premières minutes-là, normalement, après, tu peux t'installer puis retrouver peut-être un tempo un peu plus normal au match. Puis là, tu peux prendre un peu plus contrôle de la partie. Tu sais, dans le premier match, si tu te rappelles, le premier match entre Columbus et Tampa, Columbus n'a pas été capable de faire ça dans la première période. Ils perdaient 3-0.
Oui.
Par contre, ils ont été capables de se replacer en deuxième et en troisième période, de renverser la vapeur puis de gagner ce match-là 4-5-3.
Puis il n'y a rien de pire que de jouer nerveux à maison aussi, Daniel, quand ça se produit.
Non. Mais je pense qu'ils ont appris beaucoup de ce match-là quand même. Oui, ils ont pris beaucoup de, pas juste de l'expérience, mais de confiance dans ce match-là. Mais ils ont appris à mieux gérer un peu en début de match sur la route. Puis là, depuis ce match-là, ça va beaucoup mieux là à chaque match qu'ils ont joué sur la route. Donc, c'est un peu ça qui est le plan de match là, quand tu te retrouves à un aréna difficile à jouer sur la route.
On parle encore beaucoup aujourd'hui de gestes d'indiscipline de la part de Brad Marchand contre les Blue Jackets de Columbus. Rien avec des conséquences très graves pour l'instant. Pas une suspension comme Calgary en a écopé en première ronde pour les Leafs. Ça fait ultimement très mal aux Leafs de Toronto. Mais sens-tu qu'il y a de la frustration qui s'installe chez les Bruins contre les Blue Jackets? C'est que ben, Brad Marchand, moi, comme joueur de hockey, m'a conquis ces dernières années. Puis on dirait que quand il revient à ça, ben, il me fait décrocher. Puis je pense que c'est pas bon pour son équipe non plus. Daniel, comment tu vois ça, toi?
Non, écoute, pour moi, c'est un geste. Pour moi, c'est pas un geste qui méritait d'être suspendu.
Non, je suis d'accord. C'était du gossage, comme on dit, là. T'sais.
Ouais, il dérange. Je pense que son but, c'était peut-être de déranger, mais encore une fois, tu sais, il va trop loin. Il sait pas comment s'y prendre. Je sais pas s'il est maladroit quand ça vient à ça.
T'as vu le coup de patin sur la lame l'autre jour?
Ouais, j'ai vu le coup de patin aussi. C'est un gars qui perd les pédales assez rapidement. Mais moi, je suis dans la chambre de Columbus, je me dis, hey, on l'a là. On est exactement ce qu'on veut. Il commence à faire ses foleries. C'est parce qu'il est frustré. C'est bon signe pour nous. Donc, c'est juste de te surveiller. Tu te dis, écoute, quand Marchand est sur la patinoire, surveille-toi parce qu'il va essayer de te blesser. Mais à part de ça, le continue à être dans sa face, comme on dit, parce qu'on dérange présentement. Puis il est pas capable de se contrôler. Donc, c'est bon signe pour les Blue Jackets.
Je t'ai parlé souvent de gabarit. Est-ce que c'est important pour gagner ou non en séries éliminatoires? Et on le savait tous les deux, Daniel, puis je pense bien des amateurs dans le monde du hockey, que ça prenait une équipe assez solide pour vaincre les Caps de Washington comme les Hurricanes l'ont fait en première ronde. L'aventure se poursuit pour les Hurricanes en deuxième ronde. Puis j'ai dit, je vais en avoir le cœur net. Je suis allé recenser leur alignement. Sais-tu, ils ont combien de joueurs en bas de 6 pieds, les Hurricanes?
Non, je pourrais pas te dire.
Il y en a deux. Puis c'est pas des piments, là. C'est Sébastien Aho et puis Teuvo Teravainen à 5 et 11. Et donc, deux éléments très productifs. Puis je t'amènerai à Columbus pour avoir fait le même exercice. Et les gars les plus petits de l'équipe, eh bien, c'est pas tellement compliqué. C'est Atkinson, Matt Duchesne, Panarin. 5 et 11, 5 et 11, 5 et 8. Alors, des gars qui font la différence. Mais dans le cas de Caroline, une équipe solide qui perd des joueurs sur la liste des blessés, mais qui continue d'avancer.
Oui, écoute, c'est vraiment une histoire incroyable du côté de la Caroline. Je pense pas que personne leur donnait une chance. C'est impressionnant ce qu'ils sont en train de faire. Mais t'as entièrement raison, c'est pas facile de battre une équipe comme Washington. Pour moi, quand je pense à des grosses équipes difficiles à affronter, Washington en est une, les Jets de Winnipeg en est une autre, Columbus est une grosse équipe physique. Puis ça, en séries éliminatoires, c'est toujours difficile à affronter des joueurs qui sont gros et grands, qui prennent beaucoup de place sur la patinoire. C'est sûr que tu as quand même besoin des petits joueurs rapides, mais en séries éliminatoires, là, il n'y a pas de doute que des gros bonhommes, des gros gabarits peuvent t'aider énormément, surtout quand les matchs deviennent très, très physiques, comme on voit en séries éliminatoires.
On verra qui se retrouvera en finale, là, mais Saint-Louis ont seulement deux gars en bas de 6 pieds, Schwartz et Fabry. Dallas en a trois, Cogliano, Zuccarello et Justin Dowling. En tout cas, je ne ferai pas toute la liste. Là. Boston et Colorado sont les équipes qui en ont le plus. San Jose en a quelques-uns, des gars en bas de 6 pieds, mais des gars qui contribuent énormément également. Tu ne peux pas les écarter. Là. Je regarde les deux jeunes défenseurs de la ligne bleue de l'Avalanche du Colorado, Samuel Girard et Cale Makar. C'est quand même écoute, dans une couple d'années, ces deux-là ensemble, ça va faire des flamèches. En fait déjà, Daniel, je suis tellement impressionné de voir Samuel Girard et le jeune Makar également qui sont entrés en scène.
Ouais, les deux jeunes, écoute, c'est deux très jeunes joueurs pour l'Avalanche du Colorado, là, pour le futur de cette équipe-là. Quand on pense souvent à McKinnon, Landeskog, Rantanen et Joss et compagnie, mais quand tu regardes à la défensive, Barry, Makar, Sam Girard, même Eric Johnson, il est quand même pas si vieux que ça. Ça regarde Zadorov, ça regarde très, très bien pour l'Avalanche, mais j'avoue moi-même que je suis très, très impressionné par le duo des derniers matchs qu'on voit entre Girard puis Makar. C'est comme s'ils flottaient les deux sur la patinoire. Écoute, je leur donne pas une grande chance contre les Sharks de San Jose, mais il n'y a pas de doute que j'aimerais ça les voir avancer.
Une équipe d'avenir, une équipe jeune, une équipe talentueuse. Johnson est le vétéran, un des vétérans. Il y a quatre gars de 30 ans ou plus. Johnson a 30 ans, Brassard a 30 ans, Varlamov qui est le backup a 30 ans et Soderberg en a 33. Alors, on va regarder où ça va les mener, ça, l'Avalanche Colorado. J'aimerais ça avoir ton opinion en terminant, Daniel, sur un dossier qui pourrait concerner le Canadien de Montréal. Évidemment qu'on commence, tu le devines bien, dans un marché comme Montréal et dans tous les marchés où les équipes sont éliminées, à penser à l'année prochaine, à quel joueur autonome sans compensation peut-être attirant. Serais-tu d'accord avec l'affirmation suivante? Si je te dis que, dans le fond, aussi agressif puisse être Marc Bergevin dans ses tentatives d'amener un joueur autonome à Montréal, que, dans le fond, le Canadien n'aura pas le choix de son joueur autonome. C'est le joueur autonome qui va choisir Montréal. Es-tu d'accord avec ça?
Oui, je suis d'accord avec ça. Souvent, parce que, écoute, les joueurs veulent choisir où ils veulent aller jouer. Il y en a quelques-uns qui vont devenir autonomes, qui vont être des joueurs, des vedettes, disons. Ils vont avoir l'embarras du choix. Donc, je te dirais que c'est plus le joueur qui a le choix de choisir que les équipes, disons, parce que il y en a seulement un certain nombre qui vont devenir libres, puis toutes les équipes vont vouloir les avoir.
Bon, là, il y en a qui spéculent sur le cas de Matt Duchesne, parce qu'une entrevue que Matt a accordée à Jonathan Bernier du Journal de Montréal, qui couvre cette série-là, nous a fait découvrir que, dans le fond, lui, il a toujours eu l'équipe du Canadien comme modèle. C'était ses idoles jouaient pour le Canadien dans le temps, puis il a cessé de prendre pour le Canadien quand Patrick Roy a été échangé. Ça parlait français dans la famille, même s'ils l'ont perdu. Fait que là, on s'est découvert des liens avec Matt Duchesne, et ça permet, bien sûr, de dire, bon, mais est-ce que lui qui, d'ailleurs, était assez positif quand il est arrivé à Ottawa, qui n'est pas un marché aussi historique et qui représente autant, sans rien leur enlever, que le marché de Montréal, est-ce que lui pourrait être attiré par un marché comme Montréal? Et, en tout cas, seul lui le sait, puis le diable sans doute. Mais d'autre part, du point de vue du Canadien, c'est là que ton avis, j'aimerais l'avoir. T'as Dano sur ta ligne de centre, t'as Kotkaniemi, t'as Poehling qui s'en vient, t'as Thompson comme soupape de sécurité, t'as Domi. Est-ce que tu cours après un joueur de centre encore sur le marché des joueurs autonomes, Daniel?
Ben écoute, un joueur de centre de première qualité, c'est sûr que c'est un grand luxe. C'est pas toutes les équipes qui ont la chance de les avoir. Si t'as la chance de mettre la main sur un, c'est beaucoup plus facile de déménager un joueur de centre à l'aile que vice-versa. Donc oui, si on est capable de mettre la main sur un grand joueur de centre numéro un, même si on est déjà bien nanti, moi, je suis d'accord à ce qu'on essaie d'aller en chercher un autre de plus. C'est toujours plus facile de déménager un joueur, un bon joueur de centre à l'aile. Écoute, on l'a vu avec Claude Giroux à Philadelphie les deux dernières années. Il se débrouille très, très bien à l'aile. Puis maintenant, il aime mieux jouer à l'aile que jouer au centre. Donc, c'est pour ça. Je pense que c'est toujours bon d'avoir trop de joueurs de centre.
Et aimes-tu ce que tu vois de Duchesne? Remarque qu'il va peut-être rester à Columbus parce qu'on commence à l'aimer à Columbus compte tenu de sa contribution en série. Mais vois-tu Duchesne, là, à la lumière de ses performances en série, puis malgré tout ce qu'il a traversé ces dernières années, occuper ce rôle-là dans un marché comme Montréal, Daniel?
Oui, écoute, oui, j'aime ce que j'ai vu de Matt Duchesne en séries éliminatoires, même qui m'a surpris plus que ce que je m'attendais, ce qui est très, très bon signe. Mais écoute, je suis pas encore vendu à 100% dans son cas. Je suis pas sûr que c'est la bonne place à Montréal. J'aimerais peut-être, moi, plus me diriger, si j'avais la chance entre les deux, j'irais plus dans le cas de Panarin, même si on entend là, les rumeurs avec la Floride depuis longtemps. Mais écoute, c'est sûr que ce serait toute une perche là, pour le Canadien d'être capable de mettre la main sur un Matt Duchesne.
En tout cas, ce que j'aimerais savoir, Daniel, puis si tu le sais, j'aimerais donc ça que tu nous le dises, c'est lequel parmi tous les joueurs autonomes ou tous les joueurs qui vont tester l'autonomie au 1er juillet a envie de venir jouer ici? En as-tu une idée?
Non, aucune idée de ce côté-là. Ça, c'est vraiment individuel pour chacun des joueurs. Tout le monde a des demandes différentes les uns des autres, des attentes différentes dans ce qu'ils recherchent. Donc, non, j'ai aucune idée de ce côté-là.
Ben, Daniel, je te remercie beaucoup. Merci, Daniel.
Merci, Mario. À bientôt.